Bonjour à tous. Il y a 3 ans et demi, une journaliste était assassinée à Malte. Elle s'appelait Daphne Caruana Galizia et elle enquêtait sur la corruption au plus haut sommet de l'État. Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Benoît.
Alors avec le collectif Forbidden Stories, vous suivez cette affaire depuis le début. Une affaire avec de multiples rebondissements et qui continue d'empoisonner la vie politique de ce pays, membre de l'Union européenne. Avec vous, nous allons tenter de comprendre pourquoi cette journaliste a été éliminée et qui sont les possibles commanditaires.
France Inter, secret d'info, Benoît Colomba.
There are crooks everywhere you look now. The situation is desperate.
Il y a désormais des escrocs partout où vous regardez. La situation est désespérée. Deux phrases que nous avons fait lire, extraites du dernier billet de blog de la journaliste maltaise Daphne Caruana Galizia, un message publié 23 minutes exactement avant son assassinat, le 16 octobre 2017. Une bombe était placée sous son véhicule. Alors à l'époque, l'émotion est énorme dans toute l'Europe. 6 mois plus tard, un collectif de journalistes décide de reprendre ses investigations. C'est le début de ce qu'on appelle le projet Daphné, Sylvain Tronchet.
Oui, un projet auquel nous participons, hein, à la cellule investigative de Radio France, et qui implique 45 journalistes de 18 médias internationaux rassemblés par Forbidden Stories, une organisation française qui s'est donnée pour but de protéger les journalistes menacés ou de poursuivre leurs enquêtes s'ils ne peuvent plus le faire. Quand le projet Daphné débute, 3 hommes ont été arrêtés, soupçonnés d'être les auteurs de l'assassinat. Il y a des preuves solides contre eux, mais on ne comprend toujours pas pourquoi la journaliste d'investigation maltaise a été tuée, se souvient Laurent Richard, le créateur de Forbidden Stories.
Le projet Daphné, il y avait donc 2 objectifs. Le premier, c'était d'enquêter sur la mort de Daphné, son assassinat, qui l'avait tué, qui se cachait derrière. Et le deuxième objectif, c'était de poursuivre les enquêtes de Daphné. Quelle était la dernière enquête ou l'enquête la plus sensible sur laquelle elle travaillait, l'enquête de trop?
Quelle était l'enquête de trop, celle qui a signé l'arrêt de mort de la journaliste? Et ça, est-ce qu'on le sait aujourd'hui, Sylvain?
Eh bien, disons qu'on en a une idée très précise. Daphne Caruana Galizia s'intéressait de près à une centrale électrique qui était la grande promesse de campagne du Premier ministre de l'époque, Joseph Muscat. Une centrale au gaz, moins polluante que l'ancienne, au fioul, qui fournirait de l'électricité moins cher aux Maltais et qui permettrait d'en finir avec les coupures de courant dans l'île. C'était la grande réalisation de ce jeune Premier ministre travailliste, arrivé au pouvoir en 2013 et soutenu par tous les dirigeants de la gauche européenne, comme François Hollande à l'époque.
Nous voulons réorienter l'Europe. Et pour cela, j'ai besoin de la présence de chefs de gouvernement progressistes. C'est pourquoi Joseph Muscat a désormais une grande responsabilité. Sa victoire sera un signe encourageant pour tous les peuples européens qui regarderont le 9 mars le vote de Malte. Ensemble, avec lui, nous porterons de grandes priorités.
On l'entend, Joseph Muscat est alors en pleine ascension politique.
Oui, mais il a un problème. Et ce problème, c'est Daphne Caruana Galizia. Elle a révélé plusieurs scandales qui ont secoué son gouvernement. Et la voilà qui s'intéresse maintenant à cette centrale électrique. Daphné a obtenu, quelques semaines avant sa mort, des milliers d'emails et de documents provenant d'Electrogaz, la compagnie qui gère la centrale. Et il y a des choses étranges. On ne comprend pas, par exemple, pourquoi le gouvernement a choisi comme fournisseur de gaz une compagnie azerbaïdjanaise qui s'appelle Socar. Socar ne produit pas de gaz liquide. En fait, elle l'achète à Shell. Juliette Garside, qui est journaliste au Guardian à Londres, a repris l'enquête sur ce dossier.
On se demande un petit peu ce que fait Socar dans cette chaîne. Quelle est la contribution de Socar? Socar ne produit pas le gaz, n'organise pas la livraison du gaz. C'est pas les bateaux de Socar qui arrivent en Malte avec ce gaz. Socar ne fait que acheter le gaz de Shell et vendre ce gaz et en faisant un bénéfice. Et nous avons fait une calculation que Malte allait perdre des centaines de millions d'euros sur cet arrangement. Mais des compagnies et des individuels se sont enrichis à travers cet arrangement.
Donc, si je comprends bien, on a une société d'Azerbaïdjan qui se fait de l'argent en servant d'intermédiaire sur de la vente de gaz naturel. Et à Malte, qui en profite?
Eh bien, plusieurs hommes d'affaires, dont le directeur et actionnaire d'Electrogaz, Jorgen Fenech. C'est l'un des hommes les plus riches de Malte. Promoteur immobilier, propriétaire d'hôtels, de casinos, y compris en France d'ailleurs, et amateur de chevaux de course. En enquêtant sur cet homme, Daphné Caruana Galizia remonte jusqu'à une mystérieuse société basée à Dubaï, une société nommée 17 Black, 17 Noir, comme au casino à la roulette. Daphné s'interroge. Elle contacte son fils, Matthew, qui est journaliste à l'ICIJ, le consortium international de journalistes, qui a sorti les Panama Papers un an plus tôt. Vous savez, cette gigantesque fuite de documents sur les sociétés offshore.
Ma mère m'a envoyé un message où elle me demandait si j'avais entendu parler des sociétés 17 Black et MacBridge. Elle disait que ces sociétés étaient la clé d'un réseau de corruption. J'ai cherché dans les Panama Papers et je n'ai rien trouvé.
Donc Daphné Caruana Galizia était sur la piste de cette société 17 Black, mais dans les Panama Papers, apparemment, il n'y a rien.
Eh bien, en fait, si. Il y a bien des informations dans cette énorme base de données, mais à ce moment-là, elles n'ont pas encore été traitées, elles n'apparaissent pas dans la base. Au moment de la sortie du projet Daphné, donc au printemps 2018, cette société, 17 Black, reste donc toujours un mystère pour le public maltais. Mais l'un des journalistes du projet, Jacob Borg, du Times of Malta, commence à mettre un nom sur cette société.
Quelques jours avant la publication des premiers articles du projet Daphné, une source m'a dit que Jorgen Fenech était le propriétaire de 17 Black et qu'il était potentiellement impliqué dans le meurtre. Donc ce que nous avons publié en avril 2018 n'était qu'un fragment de l'histoire. J'ai mis toute mon énergie pour pouvoir prouver que ce gars était derrière 17 Black et à partir de là, que ça pouvait être le mobile du meurtre de Daphné.
Il y a donc une piste sérieuse qui relie 17 Black à l'homme d'affaires Jorgen Fenech.
Oui, l'exploitant de la centrale électrique. Reste maintenant à savoir à quoi peut servir cette société secrète. Et ça, les journalistes du projet Daphné l'apprennent quelques semaines plus tard. 17 Black est en fait lié à deux sociétés offshore qui ont été ouvertes par deux membres du gouvernement Muscat, comme le raconte Jules Giraudat de Forbidden Stories.
Ils obtiennent un email qui explique que 17 Black est censé verser à peu près 2 millions d'euros aux deux sociétés offshore, un de Keith Chembri, le chef de cabinet du Premier ministre, et deux de Konrad Mizzi, qui était à l'époque ministre de l'énergie. Et donc là, tout de suite, tout s'éclaire. C'est-à-dire que il y a un énorme contrat public, près de, je crois, 400 millions d'euros. Le propriétaire de cette entreprise est le propriétaire d'une société offshore qui est censé reverser de l'argent au chef de cabinet et au ministre de l'énergie, c'est-à-dire ceux qui ont décidé que se construise cette centrale électrique.
Donc si je résume, 17 Black devait servir à verser de l'argent à deux sociétés discrètes, ouvertes par des membres du gouvernement, le chef de cabinet du Premier ministre et le ministre de l'énergie. Bon, là, on pense tout de suite à de la corruption.
Oui, clairement, hein. Mais les ministres contestent. Et même s'ils admettent qu'ils devaient recevoir de l'argent de 17 Black, ils n'ont pas le choix. Devant les preuves, ils affirment ne pas savoir qui est le propriétaire de cette société. Les journalistes du projet Daphné, eux, savent de bonnes sources, hein, on l'a dit, qu'il s'agit de Jorgen Fenech. Mais ils n'en ont pas encore la preuve absolue. Stephen Gray, de Reuters, part donc à Dubaï, l'une des places financières les plus opaques au monde, où a été enregistrée cette mystérieuse société.
Je suis allé à Dubaï et j'y ai travaillé avec un collègue qui y est installé. Et tous les deux, nous avons trouvé une source travaillant dans le secteur financier. C'est un endroit très compliqué pour enquêter. Et nous avions un peu peur. Un informateur peut aller en prison s'il révèle ce genre de choses. Nous avons été surpris d'obtenir cette information, mais nous l'avons bien obtenue.
Secret d'info sur France Inter.
Bien, alors on reprend le fil de notre récit sur la piste pistes des assassins de Daphne Caruana Galizia. La clé de cette affaire semble tourner autour de cette société basée à Dubaï, 17 Black, censée verser de l'argent à des politiques maltais. Ce journaliste qu'on vient d'entendre réussit à récolter des preuves et qu'est-ce qui se passe ensuite?
Eh bien, plusieurs médias publient l'information. Jürgen Fenech est le propriétaire de 17 Black. À Malte, c'est un choc, hein. On tient peut-être le mobile du crime. Daphne aurait été tuée parce qu'elle allait révéler cette information. C'est en tout cas ce que pense son fils, Matthew.
Quand les journalistes du projet Daphné m'ont confirmé que Jürgen Fenech était le propriétaire de 17 Black, tout est devenu clair. Tout cela avait du sens. Je pense que ma mère l'avait compris également. Je pense que sa source savait que Jürgen Fenech était le propriétaire de 17 Black. À partir de là, nous étions certains que Jürgen Fenech était le commanditaire du meurtre.
Donc à ce stade, il y a au moins de forts soupçons qui pèsent sur cet homme d'affaires maltais, Jürgen Fenech. Et la justice et la police maltaise, est-ce qu'elles travaillent sur cette piste?
Eh bien, très peu. Jürgen Fenech n'est pas inquiété. Les deux membres du gouvernement impliqués restent en place. Il y a pourtant un vrai débat dans le pays, mais le Premier ministre, Joseph Muscat, reste inflexible. Écoutez-le face à une journaliste d'Euronews en novembre 2017.
Vous avez été personnellement mis en cause. Que répondez-vous?
Ce n'est pas une affaire de polémique. C'est une affaire de principes fondamentaux. Il est intolérable qu'une personne, journaliste ou non, soit tuée dans notre pays. Nous fournissons aux enquêteurs toutes les ressources nécessaires à ce que la lumière soit faite. Je fais partie de ceux qui auraient préféré que les conclusions aient déjà été rendues, car de nombreuses accusations infondées surgissent, et je l'ai déjà dit, je suis tellement sûr de ma position que s'il y avait, si ce n'est qu'une preuve, même un indice que ce qui est dit est vrai, je présenterai ma démission, je tiens parole.
Oui, on l'entend, c'est un Premier ministre sûr de lui, droit dans ses bottes.
Et rien ne bouge, hein. De fait, dans les mois qui suivent, nous sommes plus d'un an après le meurtre. Il y a 3 suspects en prison, hein, je vous le rappelle. Certes, ce sont des malfrats chevronnés, mais ils n'ont en apparence aucun lien avec la journaliste ou même avec le milieu politique. Officiellement, il n'y a aucune avancée sur le mobile du crime. Mais en réalité, l'affaire est en train de basculer, nous raconte Jules Giraudin.
Ce qu'on sait, nous, c'est qu'en fait, en profondeur, se joue quelque chose de crucial. Vince Muscat, un des 3 suspects dans le meurtre, s'est mis à parler à la police. Vince Muscat a proposé à la police à leur livrer des éléments sur un intermédiaire dans le meurtre en échange de l'immunité, d'un pardon présidentiel.
Et du fond de sa cellule, Vince Muscat, qui n'a rien à voir avec Joseph Muscat, hein, le Premier ministre, Vince Muscat a des choses à dire, explique le journaliste Stephen Gray.
Il a dit précisément qu'il y avait un intermédiaire dans ce meurtre qui a donné les instructions et l'argent. Cet homme est un chauffeur de taxi qui est très proche de Jürgen Fenech, donc la police le connaissait depuis avril 2018.
Donc, ce que dit l'un des assassins présumés, Vince Muscat, aux enquêteurs, c'est qu'il a reçu ses ordres d'un autre homme.
Oui, et pas n'importe quel intermédiaire. Melvin Thomas, c'est son nom. Melvin Thomas est proche, très proche, de Jürgen Fenech. C'est son homme à tout faire, en fait. C'est celui qui fait griller les steaks les jours de barbecue chez l'homme d'affaires. Tout cela, forcément, renforce les soupçons sur Jürgen Fenech. Pourtant, rien ne se passe.
Comment ça, rien?
Eh bien, rien. Plus d'un an après les révélations de l'assassin présumé, hein, Vince Muscat, Jürgen Fenech et Melvin Thomas restent libres. Ils ne sont pas interrogés. Et cette situation, elle commence à être connue de pas mal de gens, des journalistes, des politiques, à Malte et même à l'étranger.
Mais il n'y a pas des pressions internationales sur le gouvernement maltais?
Il y a bien quelques députés européens qui dénoncent les failles dans l'état de droit à Malte, mais pendant cette période, le gouvernement de Joseph Muscat reste un partenaire respectable et respecté pour de nombreux dirigeants européens, notamment pour celui qui est aujourd'hui vice-président de la Commission européenne, le néerlandais Frans Timmermans, qui, pendant que ces événements se déroulaient à Malte, s'affichait en toute décontraction avec Joseph Muscat, comme le raconte l'eurodéputé vert allemand Sven Giegold.
Monsieur Timmermans, avec Muscat, il a fait une fête publique, une fête pendant la campagne électorale 2019, bien après toutes les révélations de corruption à Malte. Il y a plusieurs lois européennes qui ne sont pas respectées à Malte systématiquement. Et malheureusement, la Commission n'a pas agi. C'est-à-dire, il y a eu des rapports, il y a eu des déclarations symboliques par la Commission européenne, mais des vraies actions, non.
Ça paraît quand même assez incroyable. Malgré les preuves qui s'accumulent sur son entourage proche, Joseph Muscat reste un personnage politiquement fréquentable.
Ah oui, Malte est pratique pour faire des majorités qualifiées au Conseil européen qui réunit les États. À l'époque, Joseph Muscat en brigue même la présidence. Le Premier ministre maltais se sent très fort, indéboulonnable, comme l'explique Juliette Garside.
Il ne faut pas oublier que Muscat avait un pouvoir énorme en Malte. Il était extrêmement populaire. Il avait créé beaucoup de richesses en Malte. Enfin, ce pays a été transformé économiquement et les bénéfices avaient mis le budget national en forte hausse. La trésorerie était en déficit avant l'élection et s'est retrouvée avec beaucoup d'argent après. Et cet argent est distribué en toutes sortes de formes en Malte. Les étudiants sont très bien soutenus, par exemple. Donc, Muscat avait apporté la prospérité.
Voilà, Joseph Muscat surfe sur sa popularité et sur le clientélisme, qui est une constante de la vie politique maltaise. Et pendant ce temps, la famille de Daphne Caruana Galizia ronge son frein, comme le raconte Mathieu.
C'était extrêmement frustrant parce que nous savions qui était l'intermédiaire. Nous savions qui était le commanditaire et rien ne se passait et nous ne comprenions pas pourquoi. Et nous ne pouvions pas le dénoncer. Parce que s'il y avait un espoir que l'enquête aboutisse, nous l'aurions ruiné en parlant publiquement.
Et on entend l'amertume du fils de Daphne Caruana Galizia, et il n'est pas le seul.
Oui, c'est aussi le cas du journaliste Jacob Borg du Times of Malta, qui du coup décide de publier un article où il écrit qu'il sait que la police a identifié un intermédiaire et que cet intermédiaire est lié à un homme d'affaires. Il ne cite aucun nom, mais cet article met la pression sur le gouvernement. Et dans la rue également, la pression monte. Le 16 octobre 2019, alors qu'on commémore les 2 ans de l'assassinat de la journaliste, Leo Luca Orlando, le maire de Palerme en Sicile, une grande figure de la lutte antimafia, vient tenir un discours à Malte qui marque les esprits.
Et je veux dire à Daphné,
Daphné, mission accomplie.
Mission accomplie.
You won.
Tu as gagné. Tu as gagné parce que nous sommes ici. Tu as gagné parce qu'il y a 2 ans, aucun d'entre nous ne serait venu dire que nous sommes avec Daphné. Et je veux dire aux assassins de Daphné, vous avez fait une énorme erreur. Et vous allez la payer.
Et cette pression populaire et médiatique, est-ce qu'elle fait bouger les choses ? Eh bien, quelques jours plus tard, oui. Enfin, la police maltaise interpelle Melvin Thomas, l'intermédiaire présumé. Et là, scène surréaliste. Melvin Thomas attend les policiers. Il sait qu'ils vont venir. Et il a sur lui une boîte dans laquelle il y a des clés USB, des photos et une lettre dont nous avons fait lire un extrait.
Je suis Melvin Thomas et j'étais l'intermédiaire dans l'affaire concernant Madame Caruana Galizia. Je vous transmets cette preuve afin que vous sachiez qui m'a engagé et qui a payé pour la bombe. Je fais cela parce que je me suis rendu compte que ces deux personnes, Jürgen Fenneck et Keith Chambry, voulaient se débarrasser de moi. J'ai donc préparé cette preuve afin que vous connaissiez toute l'histoire si je venais à être éliminé.
Mais c'est un peu glaçant cette lettre, mais de quelle preuve parle-t-il ?
Eh bien de conversations qu'il a enregistrées entre lui, Jürgen Fenneck et d'autres personnes qui racontent que l'homme d'affaires est bien le commanditaire de l'assassinat. Des conversations qui disent aussi que Keith Chambry, le bras droit du Premier ministre, était informé. Mais pour des raisons de procédure, les policiers ne peuvent pas saisir ces preuves sans l'accord de Melvin Thomas. Et l'homme veut monnayer ces révélations, comme nous le raconte Jules Giraudat.
Et ce soir-là, donc, les avocats lui disent « Non, pas un mot, parle pas à la police, il faut que tu obtiennes l'immunité de la part du président, tu vas pas faire un témoignage comme ça. D'abord, on va sécuriser ces enregistrements, on n'a pas confiance pour que la police les conserve, alors qu'apparemment la police insistait pour conserver ces enregistrements. La nuit même, il y a un vol qui part aux alentours de 3h du matin de La Valette à Malte, à La Haye, là où il y a le siège d'Europol, pour que les enregistrements soient en sécurité. Et ensuite, ils négocient le pardon.
Donc, on comprend deux choses. Les enregistrements compromettants sont transportés à l'agence des polices européennes, Europol, et puis l'intermédiaire, lui, veut négocier son témoignage, mais pour ça, il a besoin d'un feu vert politique.
Eh oui, à Malte, le président de la République, qui a un rôle plutôt honorifique, peut accorder un pardon, une immunité en échange d'informations. Mais il le fait sur proposition du Premier ministre. C'est donc Joseph Muscat qui doit demander qu'on accorde le pardon à un homme qui risque de dynamiter son gouvernement. Et là, pendant plusieurs jours, ça tergiverse. Et pendant ce temps-là, Jürgen Fenech est toujours libre. On craint qu'il s'enfuit. Et effectivement, 5 jours plus tard, le journaliste Jacob Borg apprend qu'il y a du mouvement autour du yacht de l'homme d'affaires en pleine nuit. Il nous raconte la suite.
À 3h du matin, je suis parti au port avec un caméraman. Une heure plus tard, la police est arrivée en nous disant que c'était une propriété privée, qu'il fallait partir. À ce moment précis, j'ai entendu l'énorme vroom vroom des moteurs de ce yacht qu'on surveillait depuis tout ce temps. On a vu quelqu'un larguer les amarres et j'ai regardé, complètement incrédule, le suspect numéro 1 sortir du port lentement.
Le suspect numéro 1 qui prend la fuite en pleine nuit à bord d'un yacht. Mais cette histoire aux allures de polar est loin d'être terminée. Restez avec nous. Dans un instant, vous allez comprendre qui met des bâtons dans les roues de cette enquête si délicate.
Ship at the harbor gate. So the mooring when the anchor dropped with the iron weight. Where is a will, there's a wanting. Where is a heart, there's something. Where is a will, there's a wanting. A hand to hope, a hope to hold, to drag forth the darkness from you. Darkness from you. Ship is leaving when the bell will toll, it'll toll for you. No denying when the log is lost, it can't be true. The darkness from you. Oh,
fought the darkness from you.
Foghorn Calling, l'univers singulier de Pierce Faccini, peintre, photographe et musicien, passé maître dans l'art de mélanger les styles musicaux, extrait de son dernier album, Shapes of the Fall.
France Inter. Secret d'info, Benoît Colomba.
Retour à notre enquête sur la trace des assassins de Daphné Caruana Galizia avec vous, Sylvain Tronchet. Alors, on évoquait à l'instant le départ sur un yacht de l'homme d'affaires Jürgen Fenech, soupçonné d'être le corrupteur et le commanditaire de l'assassinat de la journaliste. Et donc, cet homme, est-ce qu'il arrive à s'enfuir ?
Eh bien non, finalement. Jürgen Fenech est intercepté par la marine maltaise alors qu'il faisait route vers la Sicile. Son yacht est arraisonné, ramené au port vers 5h30 du matin ce 20 novembre 2019. On sait depuis qu'il avait prévu d'aller en France, mais il n'a pas pu y arriver.
Bon, mais là, il faut expliquer, Sylvain, pourquoi Jürgen Fenech, qui semblait jusqu'ici intouchable, est finalement arrêté ?
Bien, il y a plusieurs facteurs, mais probablement la situation était devenue intenable pour le gouvernement de Joseph Muscat, mis sous pression par certaines institutions, notamment financières, explique la journaliste du Guardian, Juliette Garside.
L'économie de Malte est très dépendante des services financiers, très dépendante. Et pour continuer à fonctionner économiquement sans être blacklisté par les banques, les autorités européennes, le département de justice des États-Unis, Malte devait montrer à ce moment-là que la corruption serait punie. Cette ascension des médias, d'être dans le Guardian tous les mois, tous les deux mois avec cette affaire, ça c'était un problème économique aussi bien que politique.
Oui, donc ce qu'on comprend, c'est que les places financières n'aiment pas trop ce genre de contre-publicité. Et Jürgen Fenech, alors, qu'est-ce qui lui arrive ?
Bien, il est placé en garde à vue, hein, et cette arrestation va déclencher une vague sans précédent de manifestations à Malte. Des milliers de personnes vont descendre dans la rue pendant des semaines. Le fils de la journaliste assassinée, Matthew Caruana Galizia, se souvient de la façon dont cela a commencé.
Il y avait une très grosse coupure de courant. Toute l'île était dans le noir. Plus personne ne pouvait travailler. Et tout le monde est descendu dans la rue. Les gens commençaient à comprendre que les propriétaires de la centrale électrique, Jürgen Fenech et ses associés, avaient assassiné une journaliste pour qu'elle ne révèle pas la corruption derrière cette centrale. Et les gens étaient excédés parce qu'en plus de ça, en plus de la corruption, en plus du meurtre, ils n'avaient même pas construit une centrale qui fonctionne.
Et cette colère dont parlait Matthew Caruana Galizia, c'est notamment celle d'Arnold Cassola, un universitaire maltais très connu sur l'île, ancien dirigeant du Parti Vert européen.
Nous payons de l'électricité qui coûte plus cher parce qu'on doit payer le gaz qui vient de l'Azerbaïdjan, qui est le double, peut-être le triple, du prix courant sur les marchés libres. Et nous sommes des imbéciles. Pourquoi ? Et on ne sait pourquoi aujourd'hui. Parce qu'on devait payer la corruption. Et tout ça, c'est payé par nous, à la fin. Nous payons une taxe additionnelle, une taxe sanglante.
Une taxe sanglante, c'est une expression qui frappe les esprits. Et ces manifestations, est-ce qu'elles vont prendre de l'ampleur, Sylvain ?
Eh bien, pendant près d'un mois, hein, oui, effectivement, des milliers de Maltais vont descendre dans la rue. Politiquement, Malte, c'est un pays scindé en deux. Hein. On est soit dans le camp du parti nationaliste, de centre-droit, soit du côté du Labour, de centre-gauche. Mais là, c'est la société civile maltaise qui va s'exprimer, comme en témoigne Manuel Delia de l'organisation Repubblica, qui s'est créée dans la foulée de l'assassinat de la journaliste.
These were the largest crowds mobilized in Malta.
Jamais on n'avait vu de si grosses manifestations qui n'étaient pas convoquées par les partis politiques ou l'Église. À Malte, un mouvement de protestation, habituellement, c'est 30 personnes, pas 30 000. Et il a suffi qu'ils voient seulement 50 personnes qui étaient censées avoir voté pour eux pour que le parti travailliste implose. Qu'ils cessent de soutenir Joseph Muscat. Ils avaient peur de la contagion au sein de leur électorat.
Et ces manifestations vont donc faire tomber le gouvernement de Joseph Muscat. D'abord, ce sont les ministres soupçonnés de corruption qui démissionnent. Et puis finalement, Joseph Muscat lui-même qui annonce son départ. Il est remplacé par un membre de son parti, Robert Abela.
Et du coup, est-ce que les langues vont se délier ?
Alors, Melvin Thomas, l'intermédiaire, se met à parler. Et puis, on écoute les enregistrements qu'il a remis à la justice. Et du coup, on commence à comprendre vraiment pourquoi cette enquête n'avançait pas, comme l'explique le journaliste Jacob Borg.
Jürgen Fenech était très ami avec Silvio Valletta, qui était le chef des enquêtes criminelles à Malte. Il prenait l'apéro, Silvio Valletta roulait dans sa Rolls-Royce, alors qu'il était censé enquêter sur lui. En plus, le chef de la division anti-blanchiment fait l'objet d'une enquête pour avoir fait fuiter des informations sur le meurtre. Et même chose pour l'ancien chef de la police. Donc, vous avez trois figures majeures de la police maltaise soupçonnées d'avoir saboté l'enquête de l'intérieur.
Ah oui, donc en fait, les trois plus hauts responsables de la police renseignaient les commanditaires présumés de l'assassinat.
Oui, et à ce jour, on n'est toujours pas certain que les policiers fassent correctement leur travail. L'enquête reste fragile, comme le rappelle Jules Giroda en évoquant ce qui s'est passé le 21 juillet 2020.
Melvin Thomas a été retrouvé chez lui, la gorge tranchée, des coups de poignard dans le ventre. Pendant quelques heures, on ne savait pas s'il allait s'en sortir ou non. On ne savait surtout pas s'il avait attenté à sa vie ou si quelqu'un avait tenté de l'assassiner. On sait qu'il était sous protection policière, mais s'il meurt, potentiellement tout s'effondre. Finalement, on a appris qu'il avait tenté de se suicider. Aujourd'hui, il a retrouvé la parole et donc peut revenir au tribunal. Mais on voit voilà, que ce qui est fou dans cette histoire, c'est qu'à la fois l'enquête avance et en même temps, on a l'impression qu'elle peut faire 10 pas en arrière à tout moment.
Melvin Thomas a survécu, il est donc toujours potentiellement un témoin clé, mais il reste encore de nombreux points à élucider, et surtout les responsabilités politiques. Joseph Muscat était-il informé du projet d'assassinat ? Et ensuite, a-t-il entravé l'enquête ?
Bon, et Jürgen Fenech, qu'est-ce qu'il parle ?
Il avait commencé à incriminer des membres du gouvernement, mais comme il n'a pas obtenu l'immunité, depuis il s'est rétracté. Il plaide non coupable et il est passé à une autre stratégie. Il a de l'argent, des avocats expérimentés, et la justice maltaise a de grosses difficultés à traiter des affaires aussi complexes, regrette Mathieu Caruana Galizia.
Notre justice est un désastre absolu. Ce n'est pas la faute des juges, mais du système tout entier. Il manque de moyens. Il n'est pas rare qu'un seul magistrat soit en charge de 1000 dossiers remontant parfois à 10 ans en arrière. Les magistrats le dénoncent à longueur d'année, mais rien ne change. Parce que, évidemment, à la fin, ce sont les responsables corrompus qui profitent de l'inefficacité de la justice.
En février dernier, l'un des assassins, Vince Muscat, celui qui avait parlé, a été condamné à 15 ans de prison, une peine négociée en échange de son témoignage. Mais les deux autres assassins présumés, le commanditaire et l'intermédiaire, eux, ne seront pas jugé avant un moment. Le fantôme de Daphné va donc hanter Malte pour longtemps encore.
Merci Sylvain Tronchet. On peut évidemment réécouter votre enquête sur franceinter.fr et sur l'appli France Inter. Rendez-vous également sur la page Facebook de la cellule investigation de Radio France et sur Twitter Investigation RF. J'ajoute que d'autres journalistes ont été tués ces derniers temps en Europe, en Slovaquie en 2018 ou encore en Grèce le mois dernier. Et en France, deux journalistes ont récemment été menacés, Nadia Lazouni et Morgane Large. Une protection policière leur a été refusée. Dans quelques instants, vous retrouverez la librairie francophone. Emmanuel Quirade reçoit le prix Goncourt du premier roman, Emilienne Malfatto. Il vous emmène à Ajaccio, dans la maison de Napoléon Bonaparte.